Décryptage, Marie Cazadebé.
Pour la première fois depuis 22 ans, les 8 pays membres du Conseil de l'Arctique se quittent ce mardi sans déclaration commune, incapables d'y intégrer à l'unanimité la notion de changement climatique. Et pourtant, ces effets bouleversent la région. L'Arctique est l'une des zones du monde les plus sensibles à l'évolution du climat. Mais la fonte des glaces fait naître de nouvelles opportunités industrielles et stratégiques. Les États-Unis, par la voix de Mike Pompeo, l'ont bien résumé hier. La course au Grand Nord est lancée et elle sera féroce. On en parle avec nos invités dans Décryptage. Bonsoir Camille Escudé.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, spécialiste de la gouvernance régionale en Arctique et analyste au groupe d'études géopolitiques. Et nous sommes en ligne de Reykjavik en Islande avec le consultant international Damien De Georges. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors je vous propose d'abord qu'on se penche sur un globe. Alors je pense que tous nos auditeurs voient à peu près où se trouve le pôle Nord. À partir de là, Camille Escudé, est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'on appelle l'Arctique ?
Oui, alors l'Arctique, c'est une région du monde qui est située pour nous donc dans l'hémisphère nord. L'Arctique, à la différence de l'Antarctique, est un océan entouré de terre, alors que l'Antarctique est un continent entouré d'océans. Ça, c'est une première différence. La deuxième différence, c'est qu'en Arctique, en tout cas au nord du cercle polaire, il y a 4 millions d'habitants qui habitent dans 8 pays différents. Donc il y a 8 États qui sont souverains dans l'océan Arctique et qui ont donc des terres et des mers. Donc ces 8 États, c'est le Canada, les États-Unis, la Russie, la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark grâce au Groenland et l'Islande.
Et depuis 1996, ces 8 États se retrouvent tous les 2 ans, donc pour la réunion du Conseil de l'Arctique, hein, celui qui a eu lieu par exemple hier et aujourd'hui en Finlande, c'était la 11e réunion. À quoi sert cette instance? Quelles sont ses prérogatives?
Alors le Conseil de l'Arctique, c'est un forum de haut niveau, donc pas une organisation régionale à vocation contraignante, mais seulement un forum de discussion entre les 8 États de la région, mais également 6 représentants de populations autochtones, ce qui est assez exceptionnel, et également des observateurs. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y en a 40 observateurs, dont 13 États qui ont un droit d'observation, mais pas de décision dans ce forum. Et le mandat du Conseil de l'Arctique en 1996, c'est coopérer autour des questions d'environnement et de développement durable dans un contexte post-guerre froide où l'environnement, c'est le moyen pour tous les États de se retrouver autour de la table pour trouver un sujet d'accord, pour recommencer à coopérer après 50 ans de guerre froide où la région était gelée politiquement. Et c'est également un moyen de coopérer en faveur de l'environnement dans cette région qui, plus qu'ailleurs dans le globe, est extrêmement fragile.
D'où le caractère totalement inédit de cette réunion, la 11e, celle qui vient de se terminer donc en Finlande, qui reflète bien d'ailleurs les enjeux de la région. Donc pour la première fois, Damien De Georges, les 8 membres ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une déclaration finale. C'est bien le climato-sceptisme de l'administration Trump là qui s'est invité en Finlande?
Oui, alors il y a eu une déclaration brève d'une page, mais effectivement, on reparle des enjeux énergétiques et on reparle surtout des enjeux sécuritaires. On parle enfin, je dirais, des enjeux sécuritaires dans la région, avec la Chine notamment.
On va aborder évidemment cette question-là, mais en tout cas, c'est les États-Unis qui sont pointés du doigt dans cet échec à réaliser donc une déclaration finale.
Oui, mais il n'y a rien de nouveau à ça. C'est l'administration actuelle qui veut ça.
Camille Escudé, c'est en tout cas inédit.
Oui, tout à fait, c'est inédit. C'est la première fois que les 8 États ne se mettent pas d'accord sur une déclaration finale. En 2017, alors que l'administration Trump était déjà au pouvoir, les 8 États avaient tout de même signé une déclaration finale, alors que c'était Rex Tillerson, le secrétaire d'État. C'était quelques mois avant que les États-Unis quittent l'accord de Paris. Mais là, effectivement, l'administration Trump, pour la deuxième fois, est présente au Conseil de l'Arctique, et c'est la première fois que les États-Unis refusent de signer une déclaration finale parce qu'ils ne veulent pas signer une déclaration avec le terme de changement climatique.
Oui,
pour eux, c'est le mot tabou.
L'existence même d'un réchauffement climatique. Et pourtant, à quel point la zone est-elle sensible à l'évolution du climat? Je disais, c'est l'une des plus sensibles. Comment comprendre en fait toute l'importance justement de la sauvegarde de l'environnement dans cette région?
La région Arctique, elle est particulièrement vulnérable au changement climatique. Parce que on peut voir tout d'abord que la banquise notamment se rétracte, la banquise perd en épaisseur, ça c'est quelque chose qu'on voit très bien sur les images satellites que peut fournir par exemple la NASA entre autres, cette rétractation de la banquise, cette perte de volume qui est aujourd'hui extrêmement impressionnante. Et puis l'Arctique est aussi extrêmement vulnérable au changement climatique parce que ce sont des écosystèmes absolument uniques et qui en souffrent particulièrement déjà pendant la guerre froide. L'Arctique russe, c'était un peu le cimetière nucléaire de la Russie. Donc aujourd'hui, il y a des déchets de très grande importance, des déchets nucléaires qui sont là dans la région. Et aujourd'hui, ce sont aussi des questions de biodiversité, des questions de pollution marine, etc., dont auxquelles justement le Conseil de l'Arctique essaye de s'attaquer.
Je vous propose d'écouter le témoignage de Tero Voraste. Cet homme gère une flotte de 9 brise-glaces à Tromsø, c'est en Norvège.
En fait, c'est comme si l'on avait découvert une nouvelle planète, un nouvel océan. Pendant l'été, maintenant, vous pouvez utiliser cette route du nord-est sans l'assistance d'un brise-glace. En hiver, soit il faut utiliser un bateau très résistant, dessiné pour naviguer dans les glaces, soit il vous faut l'appui d'un brise-glace. Mais même avec moins de glace, cela ne veut pas dire que ça va être simple. Les conditions de navigation vont être très instables, avec plus de vent, plus de glace dérivée, et bien sûr toujours de la glace en hiver.
Alors paradoxalement, donc Camille Escudé, on l'entend, le réchauffement climatique rend la région encore plus attractive. En quoi est-ce que ce réchauffement attise les convoitises en Arctique ?
L'Arctique, c'est une région qui est exploitée économiquement et industriellement depuis plus d'une centaine d'années. Mais ce qu'on observe très clairement, c'est une accélération de ces exploitations économiques qui peuvent être diverses et variées. Donc on l'a entendu, une exploitation commerciale avec de nouvelles routes maritimes qui se dessinent et également de l'exploration pétrolière, gazière, des minerais, des terres rares, de la pêche, du tourisme, etc. Ce qui change aujourd'hui également, c'est un intérêt des États du monde entier dans la région. La Russie, pour la Norvège, pour le Canada, le Nord, ce sont déjà des territoires extrêmement développés. Mais aujourd'hui, on remarque une entrée dans l'économie de la région, de nouveaux acteurs, notamment les acteurs asiatiques et la Chine en premier lieu, qui est extrêmement active dans la région.
Damien de Georges, à quand date-t-on les premiers effets notables de ce réchauffement climatique et donc l'intérêt grandissant pour l'Arctique ?
Alors cet intérêt grandissant pour l'Arctique, il est dû justement du fait du changement climatique. Et on va dire que symboliquement, ça remonte en 2007, en août 2007, quand il y a eu ce drapeau russe déposé à la verticale du pôle Nord. Pour revenir sur la route du Nord, on peut dire que stratégiquement, c'est avant tout un itinéraire bis, j'allais dire, en cas de tension en mer de Chine méridionale, pour faire le commerce entre Asie et Europe.
En quoi justement l'ouverture, la naissance d'une nouvelle voie maritime bouleverse-t-elle les directions, les chemins mondiaux Damien de Georges, qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'on y gagne finalement à pouvoir traverser l'Arctique ?
On évite certaines choses et puis il y a finalement une sorte de mondialisation qui s'accélère par deux fois puisque on diminue quasiment de moitié les distances entre Amérique et Europe. Asie et Europe.
Camille Escudé, alors est-ce que ces intérêts ont tendance justement à éclipser les enjeux climatiques ?
D'après moi, absolument. C'est d'ailleurs un peu une démonstration. Le discours de Mike Pompeo lundi soir à Rovaniemi en Finlande, ce discours où il mettait vraiment en avant les tensions géopolitiques, où il accusait très fortement la Chine d'avoir des intérêts déplacés en Arctique, c'était à peu près ses mots. Il a également fustigé la position russe, canadienne, etc. Et on se rend compte dans ce discours qu'en fait ce qui manque c'est le changement climatique et que le grand perdant d'après moi de cette non-déclaration c'est justement le changement climatique qui est finalement éclipsé par ces questions géopolitiques qui finalement peuvent en bénéficier.
On va entendre dans un instant Mike Pompeo, mais est-ce que d'autres pays membres du Conseil de l'Arctique peuvent être aussi un peu moins regardants finalement sur le réchauffement climatique, connaissant aussi les intérêts que la fonte des glaces crée ?
C'est évident que le changement climatique, ça représente dans une certaine mesure une opportunité pour tous les pays de l'Arctique. En Russie, au nord du cercle polaire, c'est environ 20% du PIB de la région, 20% des exportations. Il y a des immenses projets pétroliers, gaziers, des projets d'infrastructures. C'est à peu près la même chose en Norvège. Un pays qui est également très dépendant des hydrocarbures et du pétrole en particulier, ou encore le Canada qui compte beaucoup sur ses mines du Nord. Donc c'est évident que pour tous ces États-là, sans compter effectivement les routes maritimes qui vont se développer, pour tous ces pays, dans une certaine mesure, le changement climatique peut représenter une opportunité, ce qui explique aussi peut-être leur peu de volonté à s'entendre sur cette déclaration commune.
Cette 11e réunion du Conseil de l'Arctique restera aussi marquée par le ton donc utilisé, vous l'avez évoqué hier, par Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, qui représentait bien sûr les États-Unis. Il s'est exprimé hier à la veille de la réunion ministérielle du Conseil.
Sur la route maritime du Nord, Moscou demande déjà illégalement à d'autres nations qu'elles aient une autorisation d'accès et exige que des marins russes soient présents à bord des navires étrangers. Nous savons que les ambitions territoriales de la Russie peuvent devenir violentes. 13 000 personnes sont mortes à cause des actions agressives menées par la Russie en Ukraine. Ce n'est pas parce que l'Arctique est une région sauvage qu'elle doit devenir une zone de non-droit.
Le secrétaire d'État américain qui n'a pas été plus tendre avec la Chine, accusé de vouloir privatiser l'accès à la région. Damien de Georges, on connaît évidemment les rivalités qui opposent Washington à Pékin et Moscou. Alors pourquoi la tonalité de ce discours a-t-il tant surpris hier les membres du Conseil de l'Arctique ?
Disons que ce sont des enjeux qui remontent à la surface, tel un sous-marin, j'allais dire, dans l'Arctique. Ça fait pas mal d'années qu'on parle des enjeux Chine dans l'Arctique. Et pour remettre l'Arctique dans l'espace mondial et cette compétition Chine-États-Unis, on la voit beaucoup en mer de Chine méridionale, dans l'arrière-cour de la Chine. Et l'Arctique, c'est l'arrière-cour des États-Unis. Et donc, on a vu pas mal la Chine avancer ses pions dans cette région, notamment en Islande et également au Groenland. Mike Pompeo s'est rendu en Islande en février dernier et a évoqué très largement l'enjeu sécuritaire de l'Arctique avec la présence chinoise dans la région. Et il va au Groenland jeudi et je ne doute pas que ce sujet sera à l'agenda.
C'est ça qui est étonnant, Camille Escudé, finalement, que ces questions sécuritaires interviennent dans ce conseil où vous disiez vous-même c'est pas du tout sa place. Ce discours finalement n'était pas à sa place.
Absolument. Habituellement, au Conseil de l'Arctique, ce sont des discours très policés qu'on entend, des discours de coopération, des discours tournés vers en faveur de l'environnement, du développement durable, avec encore une fois toutes les différentes définitions qu'on peut donner au terme de développement durable. Mais oui, donc ce discours détonne complètement avec les paroles habituelles qu'on entend au Conseil de l'Arctique. Dans la déclaration de fondation du Conseil de l'Arctique, explicitement, les questions de sécurité sont exclues, justement parce qu'on estime que si on commence à parler de questions de sécurité, de questions qui fâchent, en fait, on ne pourra plus coopérer ensemble. Les 8 États de la région qui ont des intérêts si divergents ne pourront plus coopérer ensemble. Donc, quelque part, mettre les pieds dans le plat, comme l'a fait un peu Mike Pompeo lundi, ça démontre bien actuellement peut-être la vision de l'administration Trump en termes de multilatéralisme, en termes de protection de l'environnement, en termes de développement aussi des ressources. Et donc ça tranche complètement avec ce qui se passe actuellement d'habitude au Conseil de l'Arctique.
Dans ce discours, donc Mike Pompeo souligne l'importance de la présence militaire russe en Arctique. Damien de Georges, comment vous pourriez résumer cette présence militaire? Comment se concrétise-t-elle dans cette région?
Je dirais qu'en 2019, quand on s'étonne que la Russie est un enjeu sécuritaire, c'est d'une banalité évidente, comme de dire que la Terre est ronde. Ça fait très longtemps que c'est un sujet. Il y a eu la guerre froide notamment. Par contre, le problème a été qu'on s'est beaucoup trop focalisé sur l'enjeu russe et on n'a pas voulu voir l'enjeu chinois qui est arrivé très clairement ces dernières années et de plus en plus monter en intensité ces derniers temps.
Avant d'évoquer la Chine, Damien de Georges, on sent que finalement cette présence militaire dérange davantage les États-Unis qu'un possible monopole commercial ou industriel de Moscou. Est-ce que c'est le cas ? On a le sentiment que la présence militaire est plus dérangeante pour les États-Unis que une volonté de monopoliser tous les enjeux commerciaux et industriels dans la région. Est-ce que c'est le cas ?
Disons que la Russie est la puissance régionale de par sa taille, de par sa capacité militaire et ses projets. Donc c'est évident que la Russie peut déranger dans la région, mais encore une fois, ce n'est pas nouveau. Et le Conseil de l'Arctique a donné les bases pour coopérer et éviter que des tensions qui peuvent avoir lieu dans d'autres régions du monde se répercutent dans l'Arctique.
Puisqu'il a été question aussi dans son discours, Camille Escudé, de Crimée. On fait des parallèles finalement avec le conflit ukrainien. Pour quelle raison, quel peut être finalement le la comparaison possible?
Moi, à mon avis, c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Je pense que dans la visée de Mike Pompeo, c'est un peu tout simplement pour faire peur, pour faire ressurgir comme ça des enjeux de réel politique que tous les autres États ont mis beaucoup de temps et beaucoup de patience à écarter de la région. Je pense que actuellement, s'il y a un endroit dans la Terre où il n'y aura pas de conflit dans les prochaines années, je pense que c'est l'Arctique. Je pense surtout, avant tout, qu'il y a beaucoup d'autres endroits où il peut y avoir un conflit qui explose avant, tout simplement parce que aucun des États de la région n'a intérêt à ce que l'Arctique devienne une zone de conflit. On sait les enjeux économiques que ça représente pour tous les États. La Russie en premier lieu, la Russie n'a absolument aucun intérêt à faire de l'Arctique une zone de conflit. En revanche, elle a intérêt à montrer sa souveraineté, à montrer qu'elle occupe le terrain, à réoccuper des bases militaires qui avaient été des bases militaires de la guerre froide qui avaient été désaffectées après la guerre froide par manque de moyens en raison de la crise qu'avait connue à cette époque la Russie. Et puis il faut pas oublier aussi que l'OTAN de son côté fait également des exercices militaires. Mmh. Il y a l'exercice Cold Response qui a lieu régulièrement en Norvège avec qui rassemble plusieurs milliers de soldats. Juste à côté de la Russie. Donc certes, pour la Russie, c'est plus impressionnant parce que dans l'esprit états-unien, effectivement, c'est la grande puissance rivale dans l'Arctique, traditionnellement. Mais à mon avis, la Russie ne fait que défendre ses intérêts économiques et de sécurité nationale également, sans viser forcément en guerrière, parce que tout simplement, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une nouvelle guerre en Arctique.
Écoutez ce qu'Igor Neverov, c'est le chargé de l'Europe du Nord au ministère russe des Affaires étrangères, disait des ambitions de la Russie, c'était en janvier 2018.
10% de notre PIB vient de l'Arctique, 20% de nos exportations. Donc, cette région est extrêmement importante. Des investissements massifs arrivent en Arctique. Nous avons adopté un programme d'État avec un gros budget. Après des années de négligence en Arctique, la Russie est de retour.
Damien De Georges, vous évoquiez l'intérêt de la Chine. À quand remonte cet intérêt et où est-ce qu'il se situe? À quoi s'intéressent les Chinois en Arctique?
On va dire, il y a une dizaine d'années, on ne parlait pas de la Chine dans l'Arctique et depuis, on ne parle presque que d'elle. Alors, les Chinois ont notamment beaucoup profité des sanctions occidentales contre la Russie suite à la crise ukrainienne, puisqu'ils investissent notamment sur Yamal. Et ils ont aussi pas mal investi dans d'autres régions de l'Arctique. Ils ont beaucoup misé sur l'Islande. En Islande, l'ambassadeur chinois parle islandais, par exemple. Ils ont investi sur les sphères aussi, je dirais, douces, de type éducation, culture. En Islande encore, l'Institut Confucius, fondé en 2008, a, en moins de 10 ans, formé environ 1% de la population, ce qui est énorme. Et le Groenland, on en parle beaucoup, notamment dans le cadre de projets aéroportuaires, où une entreprise chinoise avait été présélectionnée pour la partie construction, et finalement, ça ne s'est pas fait. Les Danois sont arrivés à la rescousse, et les Américains ont aussi fait une déclaration. Donc on a vu là des mouvements du fait... sans le dire de la Chine.
Pour conclure, Camille Escudé, et les pays européens dans tout ça, est-ce qu'ils sont eux aussi dans cette course lancée donc entre les États-Unis, la Russie, la Chine, en Arctique?
Je dirais que les pays européens sont un peu en retrait. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, c'était la Finlande qui avait la présidence tournante du Conseil de l'Arctique. À partir d'aujourd'hui, donc, ça sera l'Islande, dans 2 ans la Russie. Dans cet ensemble, l'Europe est un peu en retrait, même si on peut remarquer qu'elle essaye également de se démarquer par des investissements économiques. La France, par exemple, est présente dans le projet Yamal, où la Chine est également présente, et la Russie, bien sûr, puisque c'est en Sibérie, ou encore d'autres investissements dans le tourisme. On peut penser à la compagnie du Ponant, la compagnie française du Ponant en Arctique, mais effectivement, ce ne sont pas les mêmes moyens à la fois scientifiques, diplomatiques et économiques qui sont mis en œuvre.
Merci beaucoup Camille Escudé d'avoir été avec nous. Vous êtes géographe, vous travaillez au CERI Sciences Po et vous êtes analyste aussi au groupe d'études géopolitiques. Et merci Damien De Georges d'avoir été en ligne avec nous de Reykjavik, consultant international. Merci enfin à toute l'équipe de décryptage, Louise Kaledek, Gérard Perrault, Françoise Delignan et Claude Battista qui étaient à la réalisation ce soir. Tout de suite un nouveau point sur l'actualité sur RFI.